Le micro supplémentaire, c'est pour que le son arrive jusque dans la crèche. Alors voilà, c'est pas parce qu'on est deux, on a pris du galon. Hein, dans le... Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 5. Donc nous allons commencer Romains chapitre 5 ce matin. En fait, je vais lire les 11 premiers versets, mais en fait, nous verrons seulement les versets 1 et 2. Romains chapitre 5. Et je lis au verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par la foi, par lui, de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Les versets 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc, je vous rappelle encore, hein, parce que le chapitre 5, bien sûr, c'est dans un contexte, hein, c'est toujours une même pensée, hein, les chapitres n'existaient pas dans le texte original, hein, c'était une continuité. Et l'apôtre Paul, il vient de démontrer dans les chapitres précédents que tout être humain, juif ou non-juif, est sous la condamnation de la justice de Dieu. Hein, c'est pas Dieu qui ne les aime pas, c'est que la justice les condamne. La justice, c'est ce que Dieu la conçoit, pas celle que nous créons qui nous convient. Il a été aussi confirmé que les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver. Certains essayent de faire valoir les bonnes œuvres, mais Dieu il dit, mais les bonnes œuvres, c'est normal. Il n'y a rien de plus normal. Qu'est-ce que je dois récompenser là? C'est le comportement normal, c'est ça qui était prévu à l'origine. Donc il est impossible de faire valoir des bonnes œuvres qui sont normales, qui sont... pour des choses passées. Hein, donc, c'est impossible de rattraper et de rattraper son passé. On peut décider dorénavant de commencer à faire des bonnes œuvres, mais le passé, ce qui est fait, est fait. Et ce qu'on fait de bien aujourd'hui ne rattrape pas le passé. Ça se paye. Il nous dit, voilà, nous sommes dans cette situation où nous avons tous une dette envers Dieu. Il y a un jugement, il y a une condamnation de ce qu'a pu être et faire. Et donc, justement, c'est là tout le problème de Dieu qu'il a voulu résoudre. Et c'est le problème que nous devons comprendre. Et il ne peut sauver que des gens qui se sentent perdus. Ou qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Déjà dans le chapitre 3, Paul a reconnu au verset 23, il a dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça, c'est l'état telle que les choses sont. Hein. À ma naissance, quand j'apparais dans le monde, eh bien, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il nous dit que c'était conforme, hein, dans ce chapitre 3, les versets 21, ils nous disent tout ça, c'est conforme au témoignage des apôtres. Hein, ce n'est pas que Dieu a changé d'idée, Jésus est arrivé, il a dit, bon, ben, ce qu'on a fait dans le passé, ça n'a pas marché, donc on va inventer quelque chose de nouveau. Non, non, c'était toujours la même pensée. C'était Dieu n'a pas eu de surprise, il n'a pas eu d'échec, tout était compris et il avait prévu. Et donc, en fait, et Dieu a prévu, et c'est ce qui a été. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que d'autres, tant d'autres. Ça a toujours été ce principe-là, que par la foi, en croyant, on pouvait obtenir le pardon des péchés. Et Dieu voyant la venue de Christ, et donc il pouvait faire valoir pour le passé comme pour l'avenir. Et donc, il a prévu que la justice de Dieu soit accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Hein, c'est ça qu'il nous dit au verset 22. Hein, il n'y a point de distinction. Hein, et donc, et au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Donc, c'est toujours été sa pensée, c'était toujours son désir. Mais là, on voit ce terme de la rédemption. Il nous dit, hein, c'est au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Hein, » Donc c'est le processus que Dieu a employé pour pouvoir nous offrir le pardon de nos péchés. La rédemption, un autre mot, c'est le rachat. En fait, c'est un terme, à l'époque, qui était utilisé pas seulement, parce que ce n'est pas juste l'idée de je suis un esclave, je suis mis en vente et je vais passer à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va payer un prix et je passe à un autre maître. Et puis j'espère que ce sera un bon maître qui cherchera mon bien. C'est plus que cela. C'était ce qu'on payait pour rendre la liberté à un esclave. C'est ce terme-là. Hein. C'est le seul endroit, hein, c'est ici dans Romains qu'il emploie ce terme, qui veut dire c'est le prix qui est payé pour donner la liberté. Donc, en fait, par la mort de Christ, il nous dit, écoute, tu es esclave, tu es dans les chaînes, tu es menotté, tu es pris dans des mâchoires et tu ne peux plus sortir. Mais moi, je viens, je libère et je te rends libre. Et maintenant, bien sûr, après, c'est à nous de dire, c'est vers toi que je veux aller, c'est toi qui m'as rendu la liberté et c'est pour toi que je veux vivre maintenant. Hein? Et donc, ça devient un choix spontané et naturel que nous avons pour Dieu. On peut penser à l'idée, deux fois, on trouve dans l'écriture le mot rançon. Hein, et on sait ce que c'est que rançonner, c'est une somme d'argent qu'on paye pour qu'une personne soit libérée. Et là aussi, la rançon, c'est le prix du rachat. Hein, donc dans Matthieu 20, 28, il nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs ». Donc, c'est le prix qu'il paye pour obtenir la libération. Il nous dit aussi, car 1 Timothée 2, 5 et 6, il nous dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Hein, donc, c'est-à-dire que lui s'est donné pour libérer un autre. Hein, et c'est toujours un acte extraordinaire. Hein, c'est les actes de bravoure, aussi difficiles que soient nos temps, et on entend toujours aux informations, on entend toujours les choses terribles, mais ce matin, je lisais qu'un chauffeur de bus, il a vu quelqu'un en train de prendre une fillette, et il a été intervenir et il a libéré la fillette qui se faisait emporter. Et ben, c'est un acte, ils ont dit, on va l'honorer. Enfin, c'est quelqu'un qui va recevoir, en entendre parler, parce qu'il a libéré. Et mais là, c'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Enfin, nous étions tous aussi. Hein, c'est pas que Satan avait des droits sur nous ou quelque chose. C'est un usurpateur, il s'est imposé sur nous, il nous a pris hein, comme des prisonniers, comme des captifs. Et puis il nous a fait souffrir. Mais là, eh bien, Jésus vient et dit, écoute, moi je paye le prix de ce que vous devez à Dieu, je le paye à Dieu. Il ne nous a pas racheté de Satan. Hein. Il ne paye rien à Satan. Satan, c'est un voleur. Il a payé le prix que la justice réclamait. La justice de Dieu réclamait, il a payé le prix pour que nous puissions être libres. Hein, c'est ça la pensée. Et donc, il nous dit, bien sûr, après on trouve normal, hein, c'est... Et des gens qui disent, ouais, mais Dieu est bon, Dieu est amour, donc bon, tôt ou tard, éventuellement, eh ben, il va quand même nous laisser aller au paradis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui espèrent sur ça. Mais ça, c'est l'espérance basée sur rien du tout. Parce que, oui, Dieu est amour, il est toujours amour, mais il y a la justice de Dieu, et il faut la satisfaire. Hein, et c'est, s'il y avait moyen de faire autrement que passer par la croix... Pensez, Jésus, il n'avait pas envie de mourir sur la croix, hein, il l'a même dit, hein, la veille, il a dit, écoute, Père, s'il y a un autre moyen, s'il y a autre chose, écoute, je veux bien, hein, parce que je ne tiens pas à mourir sur la croix, mais je vais le faire. Hein, c'est ta volonté, et tu vraiment, tu tiens à sauver ces gens-là, par ce moyen-là, eh bien, je veux bien. Hein, c'est ça la pensée que Jésus avait. Et donc, maintenant, on va être dans les chapitres 5 et 6 et 7. On va parler de celui qui est justifié. Et puis après, au début du chapitre 8, donc c'est une autre transition, le chapitre 8, verset 1, il nous dit « Maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, aucune condamnation, il n'y a plus rien qui est à leur compte. C'est une justification extraordinaire hein, que nous avons par Jésus-Christ. Donc, je ne quitte pas complètement le chapitre 3 de Romains parce qu'il y a encore un autre terme qui est utilisé là et que je n'ai pas trop développé quand j'étais là. Il nous dit au verset 25, il dit « C'est lui que Dieu a destiné, parlant de Jésus, hein, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Hein, » Ce n'est pas un mot qu'on rencontre tous les jours. Et propitiatoire, c'est l'idée, ça vient de propice, hein, donc rendu propice, c'est-à-dire apaisé, satisfaire les exigences de quelqu'un. Donc il nous dit, Jésus, c'est la victime propitiatoire. Mais en plus, la seule manière qu'il soit une victime propitiatoire, c'est qu'il devienne une victime, une offrande expiatoire, hein, qui paye. C'est pas seulement je fais des beaux sourires et puis ça va lui plaire. C'est une question, il y a quelque chose à payer. Et ce que Jésus a dû payer, c'est son offrande propitiatoire, c'était un sacrifice expiatoire qui a expié le péché, qui a payé pour notre péché. Et donc, pour pouvoir le faire, c'est pour ça, c'est tout la raison pour laquelle Jésus-Christ est né d'une femme pour avoir un corps. C'est justement pour avoir un corps qui puisse offrir un sacrifice expiatoire, pour avoir du sang humain qui puisse offrir à Dieu pour sauver les humains. C'était une démarche nécessaire. Et donc, Jésus est devenu homme. Ce n'est pas juste pour faire une petite histoire mignonne d'un petit qui naît dans une étable et puis ça permet de faire une fête. Non, non, c'était réellement... C'était pour qu'il devienne. Hein. Donc, en général, nous naissons, c'est pour vivre. Hein. Mais Jésus est né pour mourir. Hein. C'était l'objectif. Il est né pour mourir, afin de mourir. Et donc, il va se présenter, et sur la croix, eh bien, son sang va être versé pour que s'il soit une victime expiatoire. Dans le jardin d'Éden, c'était l'offrande à Dieu. Il a offert son corps à Dieu en adoration. Sur la croix de Golgotha, là, il offre son sang pour nous. Et donc, juste une petite parenthèse entre les deux. Parfois, les gens se font des idées et ils invoquent le sang de Christ. Parfois, on invoque le sang de Christ pour se protéger contre un malheur ou pour se protéger contre des esprits, et on invoque le sang de Christ. Le sang de Christ n'est pas entre nos mains. Nous, on n'a aucun pouvoir sur le sang de Christ. Le sang de Christ, c'était entre Jésus et son Père. Nous, on n'a rien à faire avec le sang de Christ. C'était pour apaiser le Père, dans un sens, apaiser sa justice. C'était pour payer le prix. Et le sang de Christ, ce n'était pas quelque chose pour nous, c'était quelque chose que Jésus a pris. Il a été dans les lieux célestes, dans le temple céleste, qui n'était pas fait de main d'homme, comme il nous dit dans Hébreux chapitre 9. Et c'est là où il a présenté le... Et le sacrifice était propice et satisfaisant. Et la preuve que Dieu a laissée, nous a donné un signe, c'est que le rideau dans le temple de Jérusalem s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas. Donc la voie est ouverte depuis le haut vers le bas. Ce n'est pas les hommes qui ont forcé une porte, c'est Dieu qui a ouvert. Il a dit, maintenant vous pouvez passer, parce que c'est réglé. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. C'était un élément, dans Matthieu chapitre 27. Et donc, n'invoquant pas le sang... Nous, lorsque nous plaçons foi, nous ne plaçons pas foi dans le sang de Christ, nous plaçons foi en Christ, en la personne. Dans la rançon, c'est pas on donne pas valeur à l'argent qui a été payé, mais à la personne qui a payé l'argent. Souvenons-nous, dans nos expressions, parfois ça fait bien de dire et j'ai entendu des gens et j'aime pas, parce que rappelle une fois, une dame a dit, il y avait un chien qui l'a menacé, et alors elle dit, je t'ordonne par le sang de Christ de me laisser. Non, moi ça c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. C'est pas le sang de Christ, il n'est pas là pour moi, et je m'en sers pas pour tout tort et à travers. C'est une chose qu'on respecte. On l'évoque à la scène, mais parce que c'est le prix qui a été payé. Mais ce n'est pas quelque chose. Ma foi, elle est en Jésus-Christ. C'est toujours en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Invoquez le nom de Christ. Il y a des personnes qui sont perturbées, qui sont dérangées, et parfois même des enfants de Dieu qui peuvent avoir des attaques par le malin. Eh bien, on leur dit d'invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Christ. Les apôtres invoquaient toujours le nom de Christ dans les actes des apôtres. Ils n'invoquaient pas le sang de Christ, mais le nom de Christ. C'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et donc, voilà. Et maintenant que nous avons été rachetés, il a dit, le prix a été payé pour notre libération. Et ensuite, nous avons été, le sacrifice d'expiation a été payé pour couvrir, pour effacer la dette que nous avions auprès de Dieu, le péché. Eh bien, après cela, on dit, je lui dois tout, je lui dois tout. Et donc, je vis vivre pour lui. Et c'est donc les chapitres 6 et 7 vont nous parler, nous dire, maintenant que vous avez été justifié, maintenant que tout cela a été fait, maintenant, vous allez vivre pour lui. Et c'est la réaction normale. On va parler de l'assurance du salut tout à l'heure. Et l'une des objections des gens qui ont du mal avec l'assurance du salut, ils disent, mais si tu leur dis que n'importe comment ils sont sauvés, ça veut dire, alors je fais n'importe quoi et je serai sauvé quand même. Ça, c'est pas du tout l'esprit de la chose. Hein, et celui qui pense comme ça, moi, j'ai du doute sur son salut, hein, n'importe comment. Hein, quelqu'un qui pense comme ça et qui prend à la légère le sang de Christ, hein, c'est Christ est mort pour moi. Dieu a mis en place un plan par lequel je peux mon péché peut être payé. Eh bien, maintenant, écoute, si j'ai une vie nouvelle, c'est à lui que je la dois. Et donc, nous verrons par la suite les chapitres 6 et 7, et pour voir, et donc, il continuera, hein, continuer. Comprenez donc que c'est une progression dans la pensée, là. Hein, on est pécheur, et par la foi, on est, parce que Christ est mort, nous pouvons être justifiés, et le péché est effacé, et maintenant, nous voulons vivre pour lui. Hein, c'est ça l'enseignement. Donc, maintenant, j'arrive au chapitre 5, verset 1. Il dit « Étant donc justifié ». Donc, « étant donc hein, », avec ce « donc » là, eh bien, on sait que ce chapitre 5, Paul est en train de bâtir sur les chapitres précédents. Hein, donc, c'est la suite de la pensée. Il dit « étant donc justifié », puisqu'il dit « vous êtes justifié ». Donc, ça veut dire que c'est une chose qui est réalisée. Ça y est, c'est fait. C'est pas puisque vous allez être justifié, non, étant donc justifié, c'est un état nouveau, c'est un statut nouveau, vous êtes des justifiés. Donc dans Romains chapitre, à partir de ce chapitre-là, eh bien dorénavant, ce qu'il dit s'adresse à des personnes qui ont cru, hein, qui ont entendu le message, qui ont placé foi, confiance dans le message et qui appartiennent à Jésus-Christ. Hein. Donc, il faut bien mettre les versets dans leur contexte pour savoir ce qu'ils veulent dire. Et il dit, étant donc justifié par la foi, hein, pas autrement, il dit, donc étant donc justifié par la foi, nous avons, et voilà, première chose, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Il dit, mais bon, moi j'étais pas... Il dit, oui. Vous n'étiez pas conscient, mais vous étiez du côté de l'ennemi. Vous étiez ennemi. Hein, il nous dit, là au chapitre 5 et au verset 10, il nous dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Nous étions ennemis. Il nous considérait, il a dit, je peux rien faire avec vous. On est dans deux camps différents. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui vient du camp de Dieu vers nous. Et puis si nous le recevons, nous plaçons notre confiance en lui, et c'est lui qui nous conduit vers le camp de Dieu. Hein? Et dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comme nous sommes, quand la paix est rétablie, hein, où il emploie le mot réconcilié aussi, nous l'avons vu dans les versets suivants, c'est lorsqu'on est réconcilié à la paix, maintenant ça change toute la manière de se voir. Hein? Quand... ces derniers temps, on a commémoré la fin de cette guerre là, entre la France et l'Allemagne. Et après, une fois qu'on fait la paix, après, on est voisin. Il n'y a même plus de frontières. C'est autre chose. Et il dit, voilà, étant donc justifié, maintenant, vous êtes, c'est la paix avec Dieu. Maintenant, c'est une autre relation. C'est pas une relation de soupçon, d'intérêt. C'est une question de, on cherche le bien l'un de l'autre. Et il dit, nous avons la paix avec Dieu, et nous avons cette paix, ben, nous l'avons parce que nous avons cru. Hein, c'est, il dit, c'est par la foi. Et en plus, il nous dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, il y a premièrement un état nouveau. Un statut nouveau, hein, nous sommes réconciliés. Et puis deuxièmement, eh bien, nous avons, il nous dit, nous avons accès à cette grâce. Vous savez, quand on parle du mot accès, quand on dit accès, ça veut dire que si j'ai eu accès, c'est qu'il y avait un temps où j'étais dehors, et maintenant je suis dedans. Hein, ce n'est pas plus intelligent que ça. Et donc il dit, par la foi, eh bien, nous avons accès à cette grâce. Hein, non, ce n'est pas sur nos mérites que nous pouvons être en relation avec Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. La foi en le message, en, dans l'évangile, le message de l'évangile, faire confiance à ce message, eh bien, nous donne accès. C'est-à-dire, on en était sans, et maintenant, on l'a. Hein, accès à cette grâce. Et il nous dit, et c'est quelque chose, je le répète encore une fois, c'est uniquement pour ceux qui sont justifiés. Hein. C'était le grand thème de Martin Luther. Hein, c'était quand il a compris, il s'est dit, mais tout est par la foi. Et c'est pour ça qu'il dit la foi seule. Il répète ça, la foi seule. Et c'est uniquement par la foi, il a dit, non, parce qu'il était en train de faire son pèlerinage et en train de à Rome et de montrer. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte, il dit, mais tout ça, ce que je fais, c'est rien. C'est par la foi qu'on l'obtient. C'est ça que dit la Bible. Et nous pouvons avoir cela. Et c'est une réalité. Et depuis que nous avons cru, la paix est établie avec Dieu. On ne peut rien ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Et personne ne peut retirer quelque chose non plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Encore si c'était basé sur ce que je fais, puis je reprends mes billes et puis je m'en vais, mais ce n'était pas avec mes billes, c'était avec ce que Dieu a pourvu, c'est avec son Fils, c'est lui qui a tout mis en place, tout ce que j'ai fait c'est accepté. Toute cette œuvre est basée sur l'œuvre déjà accomplie par Christ sur la croix. Donc le salut est sûr parce qu'il est basé sur les mérites de Christ. Hein? C'est pour ça qu'à Pâques, on a fait un tel cas, comme quoi Jésus-Christ, eh bien, même Pilate a reconnu qu'il était sans péché. Hein, personne n'a pu, même les menteurs n'ont pas pu raconter quelque chose sur Christ, tellement il était pur. Et c'est très important, hein, les mérites de Christ. Donc, nous avons accès à cette grâce. Et cette grâce est uniquement pour les justifiés et dit dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc dans laquelle nous demeurons fermes. Il a dit c'est une chose sûre. On ne vit pas dans un état de doute. Ceux qui doutent c'est lorsqu'ils commencent à penser à eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Combien je n'ai pas fait? Est-ce que j'en ai fait assez? Et c'est là où le doute vient. Parce que je suis en train de penser à ma performance, mes œuvres. Mais ce qu'il nous demande, c'est de dire, pensez à ce que Christ a fait, à ce que Dieu a fait. Et lorsque je pense à l'œuvre de Dieu, je dis, mais oui, c'est sûr. C'est là, et c'est même marqué noir sur blanc, hein, comme on dit, que c'est lui qui a tout fait. C'était bien fait, Dieu l'a approuvé. L'un des autres signes, hein, tout à l'heure on disait que le voile était déchiré, ça montrait que c'était... L'autre signe, c'était que le Saint-Esprit est descendu. Hein, le Saint-Esprit est venu de Dieu, c'était un signe comme quoi, oui, vous êtes à moi. Il ne met pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Le Saint-Esprit n'est pas tellement descendu sur tout Jérusalem, il est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Hein, on reviendra sur le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est le signe, le sceau. Hein, et c'est qui marque l'appartenance. Hein, et c'est lui qui le donne, c'est pas nous qui le méritons. Je souligne beaucoup ce fait que nous avons accès à tout cela parce que nous avons cru. Hein, dans Éphésiens chapitre 1, je vous lis le passage, et au verset 13. Il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc vous avez entendu, vous avez cru, et bien tout d'un coup c'était à vous. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, et heureusement pour nous que c'est pas plus compliqué que ça. Ça met cet évangile à la portée d'un enfant comme à la portée de celui qui n'a reçu aucune éducation ou une toute autre éducation et pour qui ses idées sont vraiment étranges. Eh bien, il suffit qu'il entende, qu'il le croie et c'est pour lui. En fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis dans un état perdu. Vient Jésus qui me tend sa main percée. Il me dit, écoute, je peux te sortir de là et je peux t'introduire dans le lieu céleste. Et alors je place ma main dans sa main. J'ai dit, je te fais confiance. Et c'est là où il nous tire de là. Et il porte tout, et il nous fait introduire, là, dans le lieu céleste. Et on raconte l'histoire, en Angleterre, bien sûr, vous savez combien il est difficile pour un gens du peuple, quelqu'un du peuple, d'entrer dans le palais royal. Et apparemment, il y avait un jeune garçon qui, quelque part, il voulait voir le roi. Et donc, il se présente à la grille du palais. Et bien sûr, vous imaginez les gardes, ce qu'ils font de lui. Hein. Et lui, c'est même pas gentiment. Il dit, écoute, dégage, je sors d'ici. Et surtout que... Et lui était tellement déçu parce qu'il voulait vraiment voir le roi. Et il était en train de pleurer, là, sur le côté. Et puis, arrive quelqu'un qui le voit, puis qui le demande, il dit, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu pleures? Et il dit, moi, je voulais voir le roi, et puis ces gardes-là, ils ne me laissent pas passer. Et cet homme prend le petit garçon par la main, et puis il passe sa grille, et il rentre, c'était le prince. Et là, il y a les gardes, ils ont salué. Et puis ils ont fait des sourires aux petits garçons, et puis vous savez comment c'est, hein, les gardes. Mais vous savez, c'est, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais c'est une image de ce que Christ a fait. En fait, il vient, il nous trouve derrière la grille, on ne peut pas rentrer, c'est fermé, nos péchés nous empêchent d'entrer, notre statut nous empêche d'entrer, on est pécheurs. Et il vient, il dit, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu pleures? Quel est ton problème? Et j'ai péché, c'est vrai, j'ai péché, j'ai désobéi à Dieu. J'ai déjà fait beaucoup de choses avant même d'être conscient de ce que je faisais. Et maintenant, je ne sais plus comment faire, mais j'aimerais pouvoir entrer dans la présence du roi des rois. Et Jésus dit, écoute, donne-moi ta main. Et il prend sa main, et puis il dit, écoute, on va passer. Et là, il n'y a pas de problème, ça passe. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous fait rentrer. Si on arrive sur notre propre statut, ça ne passe pas. Mais si c'est lui qui nous fait passer parce qu'il est le Fils, donc il a pu prendre notre main parce qu'il est devenu homme. Hein ? Il dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Christ et les hommes. Jésus-Christ, homme. L'homme est venu prendre ma main et puis dit, écoute, je te fais passer. Et ensuite, quand il se présente à la grille, c'est le Fils de Dieu. Et nous avons accès. Et il nous conduit dans cette cité glorieuse. Et donc, c'est là qu'il nous termine là, avec le verset 2. Et à la fin du verset 2, il nous dit, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions, déjà maintenant, nous nous glorifions dans l'espérance. C'est-à-dire, on ne la voit pas encore. Mais c'est tellement sûr que déjà, on se réjouit. Et l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, étant donc justifié, eh bien nous pouvons même nous réjouir d'un jour être dans la présence du Seigneur. Je termine avec une pensée. Vous savez, Abraham, on en a pas mal parlé, mais Abraham avait trois villes dans sa vie. Il n'y avait que trois villes. Il y a Ur, en Chaldée, la ville de laquelle il est issu, qu'il a quittée. Il y avait une autre ville qui était mentionnée, c'est la ville de Sodome, celle qu'il essayait d'éviter, vers laquelle son neveu Lot a été attiré. Et Lot, d'abord il voyait la plaine, et puis après il voyait la ville, et puis après finalement il se retrouvait dans la ville, et puis après finalement ses enfants étaient accaparés par la ville, la vie de la ville. Et les anges l'ont sorti de là, et hein, c'est vrai que dans 1 Pierre il nous dit que le juste Lot, mais bon, il était sauvé, mais c'est un homme qui a tout perdu. Hein, il a perdu son témoignage, il a tout perdu. C'est un homme qui a terminé une vie, il était malheureux. Ah oui, le juste Lot, oui. Mais lui s'est laissé entraîner par la ville de Sodome. Et la troisième ville à laquelle pensait Abraham, c'est la ville éternelle céleste, dont les fondements ne sont pas sur terre. Et il a dit, celle-là, il l'a cherchée. Et pendant toute sa vie, il avait les yeux fixés sur la cité céleste. Et ça a été déterminant dans la manière dont il a vécu. Et vous savez, et nous, là il nous dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Nous aussi, il y a cette ville. Chacun d'entre nous avons trois cités aussi. On a cette cité de laquelle nous sommes issus. Abraham l'a quittée pour ne plus y retourner. Il a dit non, ça c'est là d'où je viens, je n'en veux plus. Et je suis pas. Et par la foi, il est parti. Nous avons aussi Sodome autour de nous. Nous avons ce monde autour de nous qui représente tout ce que nous ne devons pas avoir, les passions, les désirs, tout ça qui peut être autour de nous. Mais ce que nous dit, mais gardez les regards, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et vous savez, pour tous ceux qui avaient un permis de conduire, ou qui avaient fait du vélo même, si je regarde trop longtemps vers la droite, éventuellement, je pars vers la droite. Je me rappelle quelqu'un, pour la première fois, il prenait du vélo, et puis on lui a pas expliqué que quand on arrive par un virage, il faut se pencher. Et lui était tout content déjà de pouvoir tenir droit sur... Et il arrivait sur ce virage et puis il voyait le fossé et il est à deux dedans. Hein, c'est tout, il n'y a pas... Vous savez, où sont mes yeux, ma fille, dernièrement, elle est en Suisse et elle a fait un petit stage pour la conduite sur la neige. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit ? On dit quand vous êtes sur la neige, peu importe si la voiture chasse, gardez les yeux sur la route. Et ça se rattrapera. Si on commence à essayer, oh, je chasse, je vais essayer de rattraper ça. Il dit non, gardez les yeux sur la route, sur là où vous voulez aller. Et le plus souvent, ça rattrape. Eh bien, nous, bien sûr qu'on a cette tentation de chasser aussi dans notre chemin. On chasse à droite, on chasse à gauche, on dévie et tout ça. Il dit non, mais tant que tu as les yeux fixés sur la route, tu vas revenir. Et nous devons rester fidèles. Alors, trois cités. Où est-ce que je me suis arrêté ? Est-ce que je suis encore dans la cité d'origine ? Il me dit, sors de là. Par la foi, quitte. C'est ce qu'Abraham a fait. Ou bien je suis attiré par Sodome, cette ville qui représente la débauche et tout ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que je m'en écarte ? Abraham, il a dit, écoute, va dans la vallée verdoyante. Moi, je reste ici dans les montagnes, mais je reste loin de Sodome. Il a dit, moi je garde mes yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et c'est là, il dit, étant donc justifié par la foi, eh bien gardons les yeux sur Jésus-Christ, celui qui est notre Rédempteur, celui qui a payé la rançon, celui qui nous a rachetés pour nous libérer. Et maintenant que je suis libre de faire des choix, eh bien, je veux choisir de vivre pour Christ et dorénavant. Que le Seigneur nous aide. Je vous laisse quelques instants pour prier dans vos cœurs et dire au Seigneur ce que vous avez à lui dire. Voyez dans quelle ville vous êtes, de quel côté vous regardez, et puis revenons à Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie nouvelle. Et puis ensuite, je prierai.